France qui avait été révélé lors de la cérémonie d'ouverture. Et puis il y aura notamment aussi un passage par le Grand Palais, le Centre Aquatique de Saint-Denis. Et puis ce soir, le clou du spectacle, l'élévation de la Vasque Paris 2024, revenu passer tout l'été.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous-jacente,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Costa Gavras, des films, de la musique, des acteurs. En effet, les plans de certains de ses films, 18 en 30 ans, Z, Missing, Amen, ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle. La musique, notamment celle de Theodorakis, est indissociable de sa filmographie. Enfin, ses films réunissent une famille d'acteurs, Montand, Signoret, Denner, Trintignant et bien d'autres, qui ont incarné des personnages profondément humains, avec leur faiblesse, leur courage, leur lâcheté. Dans cette émission, pour accompagner la rétrospective qui lui est consacrée lors de la 31e édition du festival Premier Plan d'Angers, nous évoquerons son parcours en utilisant sa propre voix, puisque nous lirons des extraits de son autobiographie « Va où il est impossible d'aller », paru au Seuil, en 2018.
Près d'un mois après le début des cours à la Sorbonne, j'entends un petit groupe parler d'un film qui passe dans un endroit appelé Cinémathèque. Je les suis. À la Cinémathèque, il y avait une assemblée de jeunes gens en effervescence. Ils parlaient fort, avec passion, deux ou trois à la fois. Il y avait des rires, des jeunes filles, moins nombreuses, mais tout aussi passionnées que les garçons. La plupart semblaient bien se connaître. C'était une salle heureuse qui, de toute évidence, attendait un événement important. À la caisse, une dame un peu forte, aux mains mal soignées, au regard scrutateur et méfiant, m'avait houspillé parce que je n'avais pas la monnaie exacte. Ma voisine m'a fait signe de ne pas m'en faire. Je la retrouvais assise à côté de moi. Elle m'a souri et demandé « Première fois ici ?» Elle était blonde, ses yeux ronds et bleus comme le ciel. « Oui, première fois. » Soudain, la salle s'est tue. Des applaudissements ont éclaté. Voilà l'événement. Un homme légèrement voûté, un peu comme un ours, est venu devant l'écran, face à nous, et, ne portant aucune attention à l'accueil chaleureux de la salle, s'est mis à parler. Aussitôt, ce fut le silence total. Il a parlé du film qu'on allait voir avec des mots nouveaux, très loin de ce qui, pour moi, définissait et expliquait un film. Ses propos, de plus en plus passionnés, s'accéléraient, de sorte que je n'ai pu comprendre et retenir que des bribes de phrases comme « chef-d'œuvre massacré, film de 9 heures puis 5 et encore coupé, tragédie grecque, film sur l'amour de l'argent, violence, ironie. Le nom de Freud était prononcé deux ou trois fois. Lumière et photo, dramatique, écriture épique. Il a conclu sa longue diatribe en regrettant de ne pas pouvoir nous montrer les 5 heures, mais seulement 3 heures de cette œuvre qui avait révolutionné l'écriture du cinéma. Les mots Freud et écriture m'avaient particulièrement frappé. Je ne connaissais qu'une écriture, celle des mots dans les livres. La projection a commencé. J'ai lu le titre Greed, sous-titré Les Rapaces, un film d'Eric von Stroheim.
À l'Institut des Hautes Études Cinématographiques, l'IDEC, un jour, Cloquet nous fait faire des essais avec une nouvelle pellicule, la Tri-X. 3 à 4 fois plus sensible que la Kodak traditionnelle. Cette petite révolution technique participera à la naissance de la nouvelle vague. Comme chaque invention technique, elle a changé la conception des films, leur esthétique, leur économie. Elle a facilité le tournage hors studio dans des décors naturels, car elle nécessitait beaucoup moins de lumière artificielle. L'essai consistait à rester dans une chambre sans la moindre lumière et à allumer une allumette devant son visage. Cloquet m'avait encore choisi. Avais-je les traits les plus tourmentés ? Miracle. Le visage était parfaitement éclairé.
À l'IDEC, l'un de nos professeurs, M. M., insistait sur la règle du champ contre champ. « La seule règle est qu'il n'y a pas de règle », avait rétorqué Jean-Pierre Petrolacchi, meilleure plume et meilleur tempérament de la classe. M. M. insistait « Les champs contre champs doivent se faire à la même distance et avec le même objectif de caméra, sans quoi c'est une hérésie et le spectateur est dérangé. » « J'aime être hérétique et dérangé », m'avait murmuré James Blue avec son accent américain. L'enseignement normatif de M. M. n'entamait pas notre fougue. Je dirais le contraire, il nous stimulait à croire que c'était sa méthode pédagogique. Nous étions impétueux dans nos jugements, qu'ils soient exprimés ou pas. En réalité, plus nous étions ignorants, plus nous affirmions nos certitudes. Où placer la caméra quand il y a 5 à 10 places possibles? Quel objectif utiliser quand on en dispose d'une dizaine? Quelle histoire raconter? Comment et pourquoi celle-ci et pas une autre? Quels acteurs choisir? Chacun avait sa réponse définitive. Personne d'autre ne peut répondre à ces questions dans sa recherche d'une cohésion pour son film, la solution ne pouvant venir que de soi. Je suis convaincue que, quelles que soient les réponses à ces questions, chacune a sa pertinence. C'est ce qui fait les grandes œuvres, le fait qu'elles ont trouvé une réponse unique et inédite. Le montage, phase finale de l'œuvre, doit chercher à son tour d'autres réponses, nombreuses et tout aussi complexes. Il constitue la phase finale de l'œuvre, c'est au montage que le film s'écrit ou se réécrit, et c'est définitif. C'est en deuxième année d'études que j'ai découvert le rôle, la fonction déterminante du montage. René Clair m'a dit, des années plus tard, si tu veux faire de la mise en scène, passe du temps dans une salle de montage. C'est durant cette deuxième année que s'élaborait le film de fin d'études. Il s'agissait de faire un court-métrage de 9 à 10 minutes, le temps d'une bobine de 300 mètres de pellicule argentique. Il fallait écrire le scénario d'une histoire qui devait nécessairement se dérouler dans un des 3 décors existants, un dispositif interchangeable en contreplaqué, peint ou couvert d'un papier peint, qu'on modifiait très rarement. Pendant le tournage du film Delin, les autres étudiants devaient occuper une fonction de technicien, électricien, machinot, caméraman, assistant metteur en scène, etc.
Thank you.
En 1959, la guerre en Algérie est à son paroxysme. Le slogan « Algérie française », aussi déraisonnable qu'il puisse paraître aujourd'hui, est alors revendiqué par la majorité des Français. Dans la métropole, une nouvelle vague de cinéastes est née. Leur ambition est de rompre avec le passé et de créer des œuvres qui annoncent un changement depuis longtemps souhaité, clamé même. Nuit et brouillard d'Alain René, Moi un noir de Jean Rouche, Du côté de la côte d'Agnès Varda, Les mistons de François Truffaut. Tous secouent le cocotier et la routine confortable et repue des productions françaises. Ils sont suivis par des longs métrages de fiction, Les 400 coups de Truffaut, Le beau Serge de Claude Chabrol, Paris nous appartient de Jacques Rivière et bien d'autres. À l'IDEC, certains défendaient Roger Vadim et son « Et Dieu créa la femme » qui me laissait indifférent. Une effervescence jubilatoire se répandait comme un feu attisé par l'envie de renouveau chez les jeunes cinéastes et jusqu'à une nouvelle cinéphilie. C'était comme une petite renaissance, sans doute, suivant l'exemple du néo-réalisme italien qui avait enflammé les jeunes critiques français, issus en grande partie de la revue Cahiers du cinéma. Critiques et cinéastes à la fois, ils avaient tendance à se célébrer les uns les autres. Leur autre projet commun consistait à dénigrer ou à démolir les anciens, René Clair, Julien de Vivier, Henri Verneuil, Claude Autant-Lara, Jean Delannoy. Ce qu'ils firent avec ténacité. Je me souviens du metteur en scène Gilles Grangier qui me demandait, bouleversé, humilié, « Dites-moi, Costa, vous qui êtes jeune, savez-vous pourquoi ils sont si déchaînés contre nous ?» Que dire ? Une génération poussée dehors avec une sorte de fanatisme esthétique, la génération précédente. Un nouveau dessin critique était né. Je suivais ces nouveaux venus dans les revues comme à l'écran. Leur sujet principal était l'amour et, en général, dans son contexte social. Cela ne m'intéressait que par le réalisme qu'ils réussissaient à introduire dans leur mise en scène et leur scénario. En revanche, des films comme « Lettres de Sibérie » de Chris Marker, « Les cousins » de Claude Chabrol ou « Les amants » de Louis Malle m'avaient profondément ému et concerné. « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard me passionnait par sa forme et grâce à ses acteurs. Je trouvais l'histoire plutôt chétive et j'étais étonné et admiratif qu'avec un scénario si ténu, Godard ait pu faire un film si remarquable. La nouvelle vague m'était proche. J'appartenais à la même génération par sa nouveauté. Mais je ne m'en sentais éloigné pour tout le reste.
La rencontre avec Jean Giono, immense écrivain, fut et demeure un moment de grande émotion. J'avais lu certains de ses livres. Je n'ai pas osé lui dire que la fin de Moulin de Pologne était toujours en moi. Lui m'a parlé de la Grèce antique qu'il connaissait bien. J'allais parfois le chercher en voiture à Manosque pour le conduire sur le tournage. À cette heure bien matinale, les paysages que nous traversions étaient couverts de rosée, leur dépression envahie d'une très fine nappe de brume transparente, d'une douceur immobile et mystérieuse. C'est Jean. Il voulait qu'on l'appelle Jean, qui me montrait et commentait. Il avait une histoire pour chaque ruine, pour chaque bergerie et hameau. Et cette histoire était toujours en relation avec des êtres humains, leur joie, leur haine, leur malheur ou leur mesquinerie, mais aussi leur accomplissement. Tu vois ce berger, il a eu une histoire avec eux. Il racontait, et le parcours jusqu'au tournage se raccourcissait singulièrement. Une fois arrivé au Cantadour, le soleil avait effacé brume et rosée pour nous laisser voir les montagnes jusqu'au pic du Midi. Un jour, je lui dis que la région ressemblait au Péloponnèse. Il corrigea, sauf le Mistral. Sur le Cantadour, il me montra des pierres plates qui couvraient le sol et m'expliqua très sérieusement que c'est le Mistral qui fait voler les frottements sur la terre et sur les autres pierres les rendent comme ça, plates. Je ne savais pas s'il fallait le croire, mais c'était raconté de manière si sérieuse, avec son accent que j'aimais, tant que ça en devenait de la poésie pure. Thank you.
premier jour de tournage de Tout l'or du monde. Réunion solennelle de l'équipe dans le décor de la propriété de Martial, le fils émigré en Amérique du Sud. Trois lamas nous regardent avec curiosité pendant que René Clair prononce son discours de bienvenue. Il nous met en garde contre eux et leur mauvaise habitude de cracher. Rire général, puis réunion des assistants dans la cabane bureau du metteur en scène installé sur le plateau. René Clair s'adresse à moi. Tu seras l'assistant scénario. Ces rapports hiérarchiques, cette organisation du travail et de l'économie des films, la cabane bureau, le tournage en studio, les sujets sans subjectivité, bref, l'académisme, était cela même que la nouvelle vague vilipendait et rejetait sans appel. Mais l'académisme produisait aussi de beaux films. Je ne citerai que La vérité d'Henri-Georges Clouzot, La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, Un singe en hiver d'Henri Verneuil. Pour tout l'or du monde, l'équipe investit bientôt le village de Castillonnès dans le Lot et Garonne. Le tournage d'un film change beaucoup la vie d'une petite ville. Il électrise les jeunes ou les agresse par l'opulence qu'il affiche, ses mystères et les rêves qu'il fait naître. Les jeunes femmes y sont les plus sensibles, ce qui hérisse encore plus ceux qui se sentent agressés. Bourvil est un homme plein de gentillesse et d'un humour subtil. Il nous invite avec Philippe Noiret et Claude Riche à manger du confit d'oie et boire du vin de Cahors. La première fois, j'ai rapidement piqué du nez. Une source récurrente de blagues pour Bourvil. Être assistant scénario signifiait aussi passer de longues heures aux côtés de René Clair. L'installation d'un plan, par lui, était suivie d'un temps, souvent long, de préparation technique, éclairage, mise en place de la caméra, accessoiriste, etc. Cela permettait des moments d'aparté où il aimait parler du passé du cinéma. Rien ne pouvait m'intéresser davantage.
Avant le tournage de La Baie des Anges, Jacques Demy m'a demandé si je voulais être son assistant. J'ai retenu un « oui » tonnant pour une réponse sur le même ton que le sien. « J'aimerais beaucoup ». La douceur de Jacques me plaisait. Elle créait un sentiment de paix et d'énergie. Être l'assistant de ce jeune metteur en scène était une chose inespérée. Nous avions presque le même âge. On parlait de lui, surtout, on écrivait sur lui avec la plus grande admiration. Il était de la nouvelle vague. « Associé », précisait-il. Je découvrais avec lui une nouvelle façon de faire un film et de le concevoir. C'en était lumineux de simplicité et de subjectivité, très original et rigoureux dans les choix de tournage. Avec Demy, la virtuosité technique ne servait pas à soutenir la dramaturgie et la psychologie des personnages, mais simplement à montrer ce que les acteurs exprimaient et vivaient à l'intérieur d'un univers que le metteur en scène ordonnait. Lors d'une première réunion avec Bernard Evin, chef décorateur, Jean Rabier, chef opérateur, et moi, Jacques nous annonça que tout ce qui concernait Jeanne Moreau devait être blanc. Ses cheveux blond platine à la Jean Harlow, ses vêtements, sa voiture, sa chambre d'hôtel. Je cherchais le regard de Rabier pour voir sa réaction. Il était assombri. Evin souriait avec complicité. J'étais moi-même un peu inquiet, encore prisonnier d'un dogme qui refusait le blanc, les opérateurs le bannissant parce qu'il créait souvent des halos ou des auréoles diffuses autour des objets ou des tissus. Il le remplaçait en général par du bleu pâle ou du gris clair. Ce jour-là, personne n'a osé discuter la décision de Jacques. La douceur ferme avec laquelle Jacques l'avait annoncé était sans appel. La symphonie en blanc, comme l'appelait Evin pour Charlie Rabier, est arrivée aux oreilles de Paul-Aimon Descharme, le producteur. Alors, m'a-t-il demandé ? Il respectait trop Jacques pour lui poser une question artistique. Très sérieux, je lui ai annoncé qu'il faudrait probablement peindre en blanc les salles de jeu des casinos où on allait tourner. Stupéfait, il s'est mis à pester contre ces ramenards de la nouvelle vague. J'ai eu beaucoup de mal à le convaincre que je plaisantais.
Pour le tournage des Félins de René Clément, qui commençait sur la Côte d'Azur, notre QG s'était établi au studio de la Victorine. Grâce à un hasard triomphant, nous avions déniché, couverte de poussière et d'oubli, la Rolls-Royce de Calouste Gulbenkian. Monsieur 5%, le roi du pétrole, mort 10 ans auparavant. Construite d'après ses propres plans, elle était unique au monde. De couleur beige et noire, elle avait toute sa partie haute en plexiglas, afin que son occupant fût visible de tous et de tous les côtés. Seuls les aveugles ne se retournaient pas sur son passage. Le premier jour de tournage, sur la promenade des Anglais, devant le casino, Alain Delon, chauffeur de la Rolls, prend le volant pour faire un tour de prise en main. Une foule observe le phénomène à quatre roues démarrées. À son retour, Alain percute un lampadaire avec l'aile et le phare avant droit. Consternation générale. Clément, Jacques Barre, moi et toute l'équipe sommes tétanisés. La foule, elle, s'amuse. Alain sort en levant les bras, désolé, mais pas trop. Les freins, se justifie-t-il face à nous et à la foule. René Clément a eu le mot de la fin dans un murmure discret mais furieux. Il l'a fait exprès. On admirait la voiture et pas lui. Je me suis dit qu'Alain n'en avait peut-être même pas eu conscience. Mon ami Richard Hellman m'appelle pour me dire que le mannequin de chez Chanel allait arriver à Nice. Il me donne le téléphone de ses parents et me précise que Michel Ray attend mon coup de fil. Pendant le tournage d'un film, le premier assistant n'a pas de vie privée, ou très, très peu. Il commence son travail à 7h et finit à plus d'heures. Rendez-vous est pris avec Michel Ray, le dimanche soir au bar du Negresco. La production, en s'étant heureux, y logeait l'équipe, tout au moins l'état-major et les stars. Michel raconte à propos de cette rencontre que lorsqu'elle m'a vu en entrant dans le bar du Negresco, elle a pensé « Mais Richard est fou, ce garçon-là, 15 jours ?» Quant à moi, je la regardais s'approcher et, comme d'habitude, comme pour un casting, j'ai fait le premier cliché instantané. Vue d'ensemble, élégance parfaite, aucune de ces modernités vestimentaires qui ne durent que le temps d'une saison. Le visage ovale classique, beaux yeux, partie haute du corps, poitrine sans exagération, partie médiane, taille souple. Toujours vue de face, fesses à deviner. Partie basse, de belles et longues jambes. Retour au visage, vraiment plaisant, regard évaluateur. Elle me tend la main qui est petite comme celle d'une adolescente. L'ensemble est superbe. Elle s'assied avec grâce, je m'assois et manque de tomber. Elle sourit, de la classe. Passé cette première vision admirative, je me demandais pourquoi Richard avait dit qu'elle était une fille pour toi. À l'évidence, elle n'était pas une de ces filles que l'on recommande pour de brèves rencontres. Elle n'était pas bavarde, ne me posait pas de questions, ni ne sollicitait d'anecdotes sur Alain Delon ou Jane Fonda, très présent dans les journaux locaux. Richard, m'étais-je dit, me proposait une liaison sérieuse, durable, ce à quoi je ne tenais absolument pas. Mon ambition d'alors se bornait à passer mes soirées à lire des livres d'histoire, de philosophie, d'art et de littérature. C'était un plaisir et par-dessus tout un moyen de combler les lacunes de mon éducation. J'avais déjà lu Platon en français, ainsi qu'Aristoteles, qu'ici on appelle Aristote, je ne sais pas pourquoi.
Je poursuis avec Simone Signoret ma vision du film, Compartiment tueur, en revenant sur l'expression de Rod, une histoire mince. Ni plus ni moins mince que celle de L'inconnu du Nord Express de Hitchcock. Mais ce qui me passionne dans ce polar, c'est la foule de personnages et de situations simples, quotidiennes, dans notre société, pas du tout spectaculaires, invisibles même, mais qui peuvent, une fois isolées sur l'écran, trouver leur dimension comique, dramatique, ridicule, poétique, incomprise, pathétique, bref, humaine. Enfin, je lui confie que j'avais glissé ici et là, notamment dans le personnage de Cabourg, quelques vérités qui me concernaient. Nous sommes interrompus par Raoul Lévy, le producteur de « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim et de « La vérité » de Clouzot, venu saluer Simone. Elle me présente. Je me dis, pourvu qu'elle ne lui parle pas du scénario, qu'elle a devant elle et qu'il regarde avec curiosité. Elle n'en parle pas. Après son départ, elle conclut, « Ce n'est pas Potemkin, mais c'est un film à faire si tu penses pouvoir le réaliser aussi bien que tu l'as écrit. » Son jugement est lucide, sagace. Je reste un moment incapable de parler. Que dire ? Elle attend. Je finis par lui parler des acteurs, ce que De Rode souhaitait, et de mon idée d'engager Catherine, sa fille. Sa réponse me laisse pantois, désarçonné. Catherine doit d'abord réussir son bac. Si tu veux, je peux jouer la vieille actrice. » Elle me fixe avec un sourire qui donnait à ses yeux mi-clos un côté asiatique. Tout cela en goûtant, j'en suis sûr, mon incrédulité, mon émotion. Je ne sais quel autre sentiment s'inscrivait sur mon visage et sur mon corps qui s'agitait sur ma chaise. Je commence par lui dire, sur un ton grave et sans doute ampoulé, que je n'aurais jamais osé lui proposer un rôle si peu important et décalé. Elle me coupe. « Tu n'as pas répondu à ma proposition. » Elle souriait encore. J'avais compris, je l'imitais. « Je crois que je vais accepter ta proposition. » Et je m'efforçais de sourire. Elle éclate de rire. Je la regarde et je me dis, le sort du film est scellé, plus aucun moyen de faire marche arrière. « Tu devrais prendre un agent, me conseille-t-elle, et nous passons aux autres acteurs. » Elle adorait Piccoli, aimait Perrin et admirait Denner. À propos d'un autre, « bon acteur, mais faux cul. » Montand nous rejoint, bientôt, et annonce que c'est l'heure du déjeuner. Puis il ajoute, « Il paraît que tu as écrit un bon scénario, y a rien pour moi ?» Au point où j'en étais, tout était normal, acceptable. Ce scénario qui, quelques jours auparavant, dormait encore dans un tiroir, se trouvait désormais associé à deux acteurs prestigieux, admirés en France et dans le monde entier. Je répondis, « Écoute, Montand, lis et choisis le personnage qui t'intéresse. » Pendant le déjeuner, je ne pouvais m'empêcher de penser que tout se passait d'une manière trop idéale, pour ne pas dire idyllique. Je soupçonnais Simone d'avoir aimé le scénario, d'avoir téléphoné à Derode pour lui dire son intérêt, celui de Catherine aussi, et pourquoi pas celui de Montand. Mon voyage à Saint-Paul-de-Vence prenait soudain un autre sens. Toutes les propositions concernant le film devaient être acceptées, et en premier lieu par moi, le réalisateur, et non par Derode, le producteur. Cela correspondait parfaitement à l'éthique de Simone. Une semaine plus tard, les Montands sont de retour à Paris. Réunion à la roulotte. Montand a lu le scénario. Cabour, il n'est pas sûr de pouvoir le jouer. Je le pense aussi, et je comptais le proposer à Piccoli pour qu'il en fasse une vraie composition, ce qui fut le cas. Et nous nous sommes tant amusés. Montand aimait le personnage de Bob Vasky, mais trop particulier, trop épisodique. Et j'avais déjà en tête Charles Denner. Je lui parle de l'inspecteur Graziani et détaille ce que je veux en faire. Il fait la moue, puis il écoute. La police avait une mauvaise image dans les milieux de gauche. Le souvenir de la guerre d'Algérie était encore proche. La participation de la police dans cette tragédie, notamment lors d'une manifestation contre la colonisation française le 17 octobre 1961, où des centaines d'Arabes furent noyés dans la Seine, et de façon plus générale, la violence de la répression policière était présente dans tous les esprits. Je lui proposais de jouer le rôle avec l'accent du Midi. Ce ne serait plus Montand, mais Graziani. Un masque pour un retour aux sources. Montand avait l'accent quand il se relâchait à la campagne et quand il se fâchait, tout particulièrement avec Bob Castella. Refus. Ça fera Fernandel, Rému. J'insiste car je sens que le personnage l'amuse. Essayons, et si tu n'es pas à l'aise, tu le doubleras sans accent. Simone, qui s'intéressait à tout, intervient. Il a raison, essaye. C'est un bon rôle.
Début mai 1968. La préparation du film commence. Je viens de recevoir ma naturalisation. Me voilà citoyen français. J'en suis très fier. Une petite musique intérieure change ma façon de me sentir. Michel est parti en reportage en Jordanie chez les Palestiniens. Je fête l'événement avec mon ami Claude Pinotto et Bi, sa compagne. Nous vidons deux bouteilles de champagne alors qu'aucun de nous n'est un grand buveur. Le lendemain, c'est le 13 mai, autrement dit, le déclenchement de la grève générale. Les échauffourées commencées bien avant à la Cinémathèque française en faveur d'Henri Langlois semblaient déjà être le signe d'un malaise national plus ample et plus profond. Avec la grève, la préparation du film s'interrompt. Un large mouvement ouvrier conteste les bas salaires et les conditions de travail, alors que le mouvement étudiant et lycéen, vaste et puissant, rejette en bloc toute forme d'autorité, la société de consommation, l'université traditionnelle, le capitalisme et par-dessus tout, De Gaulle, que beaucoup regretteront quelques années plus tard. Le mot de révolution est dans toutes les bouches, même si la plupart des esprits n'en connaissent pas exactement la signification. Certains lui donnent un sens poétique, sous les pavés, la plage, il est interdit d'interdire, ou encore, soyez réaliste, demandez l'impossible. Ce dernier slogan m'évoque cette phrase du grand écrivain grec Kazantzakis, allez là où il est impossible d'aller. Étudiant, elle m'avait fait beaucoup réfléchir par son acuité. Elle a trouvé son sens, pour moi, à Paris, à la lecture de cette autre phrase, je ne veux pas être le plus fort, ni le plus riche, ni le plus beau, ni le plus grand. Je veux être différent. Je ne sais plus qui en est l'auteur. Prévert, peut-être. Nous y étions en plein avec le mouvement étudiant qui ne cessait de s'amplifier.
Z est prêt. Jacques Perrin organise une projection pour Christian Ferry, un ami commun qui travaillait avec Charles Bluedorn, le patron de la Paramount. Au dîner qui suit la projection, Christian ne prend pas de gants. Mon cher Costa, deux flops consécutifs. Un homme de trop et celui-ci. Tu auras du mal à t'en relever. Quant à faire ensuite l'aveu. Première critique dans l'Express qui titre sur toute une page le premier grand film politique français. Le distributeur nous appelle. Ne parlez pas de politique. Nous n'en parlions pas. De très bonnes critiques comme celle du Monde ont suivi, et d'autres, nombreuses. Il y avait aussi ceux qui ne savaient pas comment aborder cet objet inattendu qu'était Z. À défaut d'Internet, réseaux sociaux et autres, on pratique l'affichage sauvage. Repérage dans la journée, expédition dans la nuit. Michel Perrin, sa sœur Eva, Afid, un ami marocain, et moi, un seau de colle, des gros pinceaux, et nous collons pendant plusieurs nuits des centaines d'affichettes avec un Z. Intriguant. Cela fait parler. Une semaine avant la sortie du film apparaît alors la grande affiche, avec les noms des interprètes, et toujours le Z. Le mystère de l'affichette était levé. Le jour de la sortie, nous guettons avec Perrin les entrées depuis un bistrot voisin de la salle des Champs-Élysées. Fin de la première semaine, pas très bonne. Aujourd'hui, on rétrograderait le film dans une plus petite salle. Hercule Moukili, le distributeur, restait calme. Attendez, attendez, nous répétait-il avec son accent corse. J'ai su plus tard qu'il allait à la sortie des salles pour écouter les commentaires des spectateurs. Deuxième semaine, le film fait mieux que la première, et la troisième mieux encore. Les spectateurs applaudissent en fin de séance et dans toutes les salles de France, nous dit Hercule, toujours avec son calme accent corse. Le film devient le phénomène de l'année de la production française. Pour une frange de la critique, le succès était suspect, hérétique, comme s'il avait souillé le temple. Cela n'a pas empêché Z de poursuivre sa relation avec le public en France et ailleurs dans le monde.
Je considère la musique de mes films comme un personnage, intervenant au même titre que les principaux acteurs. Elle établit un dialogue avec les autres personnages, avec les situations qu'elle accompagne jusqu'à la contradiction. Jusqu'à l'agression, s'il le faut. Un exemple dans Amen est le passage des trains, vides ou pleins. Pendant ces séquences, la musique qui les accompagne doit agresser. Dans l'aveu, il n'y avait pas de musique. Les personnages édifiaient l'histoire sans en avoir besoin.
Un matin, je reçois un coup de fil de Serge Toubiana, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Directeur général de la Cinémathèque française, Toubiana me proposait la présidence de la Cinémathèque. Claude Berry venait de démissionner pour des raisons de santé. Plus de 20 ans auparavant, j'avais quitté la Cinémathèque dans des conditions infamantes, après avoir initié des changements importants et préconisé le déménagement de la Cinémathèque qui s'asphyxiait dans ses locaux à Chaillot. Le projet avait été saboté. Mais c'est exaspérant de voir dans ce pays si avancé dans le domaine de l'éducation et de la culture, la façon dont certaines admirations élevées au stade de la vénération finissent dans un véritable culte de la personnalité, paralysant tout changement en art, en politique ou dans les relations humaines. Serait-ce le signe d'un apogée culturel, du règne d'une aristocratie de l'esprit, ou le signe d'un pauvre rigorisme culturel ? Je demandais à Serge Toubiana un délai de réflexion. Michel, en plaisantant à moitié, avait menacé de divorcer si j'acceptais une autre aventure avec la Cinémathèque. Là, je l'ai entendu me dire « Si la Cinémathèque t'intéresse encore, accepte. » Sans doute faisait-elle confiance à Toubiana. Claude Berry, à son tour, insistait sur les qualités de ce dernier. J'ai découvert une nouvelle cinémathèque comme nous étions quelques-uns à la rêver 20 ans auparavant. Pacifiée, ouverte sur l'avenir avec des programmes ambitieux. La Cinémathèque française est aujourd'hui l'exemple parfait de ce que doit être un musée du cinéma.
Vous venez d'entendre des extraits de « Va où il est impossible d'aller » de Costa Gavras. C'est au Festival Premier Plan d'Angers 2019 que seront projetés les 18 films de Costa Gavras. Les musiques étaient extraites des films « État de siège ». Cette émission a été préparée et lue par Anne, Paul et Ouria, au montage et à la technique Vincent et Ouria.
Auditeurs. Si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Retrouvez Elle Son Jazz tous les jeudis de 20h à 22h et c'est pendant tout l'été sur le 101.5 FM de Radio G.
Her heart is restless.